Donc si vous voulez, on va donc reprendre le débat. Et donc toutes les questions que vous vous posez, vous pouvez les poser dans le cadre de la discussion qu'on va avoir. Allez-y. Donc si vous avez quelque chose à rajouter vous-même l'un ou l'autre, bien entendu. Oui.
Alors moi j'ai entendu dans l'exposé de Pierre. Donc on a la disposition par rapport au juge des libertés. J'ai cru comprendre, mais je comprends. Que les gens qui vont être expulsés avant la décision du juge.
Bien sûr.
Oui. Et ça, je comprends pas comment
c'est tout le problème. C'est tout le problème. Alors. Pour être tout à fait complet, quand une personne est placée en rétention, il va y avoir deux juges de saisie, en fait. Si la personne, il y a une décision administrative d'éloignement qui est prise par le préfet, et une décision administrative de placement en rétention, de privation de liberté. Cette décision de privation de liberté, elle va passer devant le juge des libertés de la détention, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, et la décision administrative d'éloignement va pouvoir être contestée devant le juge administratif. Alors, si vous êtes encore dans un délai de recours possible devant le juge administratif, vous ne pourrez pas être éloigné tant que vous n'êtes pas passé devant ce juge administratif. D'accord ? Mais énormément de gens qui sont placés en rétention ont des mesures qui sont déjà définitives, en fait. Soit parce qu'ils ont déjà perdu devant le juge administratif alors qu'ils n'étaient pas enfermés, soit qu'ils n'ont pas contesté la décision pour des raisons X ou Y. Et donc, c'est là aussi que l'importance du juge des libertés sur la question de la privation de liberté est assez fondamentale. Donc, mais très clairement, on en arrive à l'aberration que vous évoquez. C'est vrai que j'ai été assez clair, mais je suis content. C'est qu'on peut expulser sans passer devant le juge.
En fait, c'est le juge administratif pour l'éloignement, c'est comme si on faisait appel, c'est ça ?
C'est deux procédures distinctes, si vous voulez. Il y a deux décisions qui sont attaquées. Il y a une décision qu'on va dire sur le fond, sur est-ce que l'État a le droit d'éloigner cette personne. On va regarder sa vie privée, etc. Et l'autre décision attaquée, c'est est-ce que l'État a le droit de priver de liberté cette personne. D'accord ? C'est deux procédures différentes, si vous voulez. Et pour beaucoup de personnes qui arrivent en rétention, les délais de recours sur le fond, sur la décision d'éloignement, sont déjà passés ou confirmés, etc.
Quels sont ces délais de recours ?
Alors, ils sont très divers, hein. Il y a beaucoup de mesures, ça dépend. Ils sont en gros soit d'un mois sur les obligations de quitter le territoire français et de 48 heures pour les arrêtés de reconduite à la frontière. Il y en a beaucoup d'autres, mais après, c'est peut-être qu'on rentrerait dans une discussion juridique qui n'est pas forcément... Enfin, on peut y revenir. Hein, mais...
Il faut aussi préciser que depuis des années, chaque fois qu'il y a une loi qui sort, c'est pour compliquer les choses au sans-papier. Oui.
Ça, c'est assez constant, de toute façon, depuis la fin des années 70. Il y a des périodes de régularisation par voie de circulaire, donc complètement exceptionnelle, hein, comme en 81, en 97, et bon, en 2006, c'était plus ou moins faussé, mais c'est toujours plus ou moins faussé, mais c'est pas les mêmes ampleurs. Hein.
Oui, mais il y a des
mesures qui ont
moi, j'ai deux questions. J'aimerais savoir concrètement comment intervient la CILAD, comment elle aide au cas par cas, j'imagine. Et d'autre part, tu as parlé tout à l'heure de 80 personnes salariées au plan national. J'imagine que ça représente un bon volume de fric. Je veux savoir comment c'est financé et quel volume ça représente et qu'est-ce que ça coûte.
Qu'est-ce que ça coûte
par rapport aux besoins éventuels.
Ouais. Alors. L'intervention, c'était pas spécifique à la rétention, hein, la question sur l'intervention.
Si on prend un cas, une personne qui arrive sans papier,
L'intervention, elle est essentiellement assurée par des bénévoles, hein, puisque je disais c'est 3000 bénévoles et 80 salariés. Donc, sur la région sud-ouest, par exemple, on a 11 groupes locaux. il y a 3 salariés, il y a 300 bénévoles. Donc c'est essentiellement des groupes bénévoles qui sont formés, qui vont recevoir les personnes et leur expliquer le contexte. D'abord, c'est une écoute. C'est déjà assez important parce que cette écoute-là, ils l'ont pas forcément, ils l'ont dans d'autres types de collectifs. Mais ils l'ont pas, s'ils vont se renseigner à la préfecture, ça va être rentrer chez vous. Hein. Donc le service public n'est pas forcément très bien rendu dans les préfectures. Donc du coup, on va informer les gens sur leurs droits et les accompagner s'ils le souhaitent ou s'il y a une possibilité aussi, si on ne les met pas en situation de risque, sur des procédures, donc des dépôts de dossiers, des recours, etc., etc. Sur la question du salariat, aujourd'hui, donc c'est 80 salariés, ça doit être c'est 50 dans le cadre du marché de la rétention. Donc le marché de la rétention, c'est évidemment un financement d'État, d'accord, dans le cadre du marché. Ça représente 22% du budget global de la CIMAD. La grosse, un peu plus de, en gros, 52% du budget de la CIMAD, c'est les dons. C'est à peu près 2 millions d'euros annuels de dons. C'est ça, en fait, qui nous permet de voir venir, de, au fur et à mesure, garder des choses, parce qu'on sait que, notamment depuis la réforme, dans le cadre de marché de la rétention, que soit on va se faire foutre dehors parce qu'on ouvre trop, soit parce que de toute façon ils ne nous réattribueront pas le marché parce que la volonté c'est qu'on sorte de toute façon. Mais donc il y a des réserves qui sont constituées grâce à ces dons, c'est pas sans impact social à l'interne après, hein. Mais on a des marges de manœuvre à ce niveau-là grâce à une sorte de donateur qui est assez important en fait. Et le reste étant des subventions de collectivités locales, que ce soit des mairies, des conseils généraux, des conseils régionaux, sur le fonctionnement, sur des actions spécifiques, voilà. Sur l'origine du financement.
Par exemple, pour le festival, vous êtes subventionné?
Oui, on organise un festival annuel donc de sensibilisation et on est subventionné par le conseil régional, le conseil général, différents conseils généraux d'ailleurs. Voilà.
Un
marché public, c'est donc il y a un appel d'offres. En l'occurrence, un appel d'offres du ministère à l'époque de l'immigration et de l'identité nationale sur l'intervention citoyenne en centre de rétention. Non mais c'est ça, il ne faut pas se leurrer quoi. Mais c'est pour ça tout à l'heure que j'avais prévenu, que j'avais pris un temps sur l'histoire de la CIMAD, parce que vous imaginez bien qu'au moment de se dire à l'interne, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on ne vend pas notre âme qu'on va signer un marché public, rentrer dans ce jeu-là avec le gouvernement. Il y a eu deux camps, hein, très clairement. Mais c'est clair que le camp de ceux qui ont dit on ne s'est pas posé ces questions-là, qu'on intervenait dans les camps en 1941, et c'était autrement plus compliqué les relations avec le régime de Vichy, et on savait pourquoi on y allait. On n'est pas resté longtemps, mais on savait pourquoi on y allait dans les camps. Et aujourd'hui, on sait pourquoi on y va, on sait pourquoi on sera foutu dehors, mais on a décidé d'y aller, voilà. Donc après, ça peut être soumis à toutes les critiques, hein, ça je peux les entendre. En tout cas, nous, on sait pourquoi on y va. C'est-à-dire, pour toujours dire, pour critiquer de l'intérieur ce qui s'y passe, et faire sortir la parole. Parce qu'il n'y aurait rien de plus dramatique que des gens interviennent là-dedans, ferment leur gueule, et qu'on ne sache plus jamais ce qui se passe dans ces lieux d'enfermement. C'est notre position, il y en a d'autres.
Non, pardon.
C'est sur l'intervention. Mais c'est une précision importante, effectivement. La CIMAD ne construit pas des centres de rétention.
Ici, Jean, tu avais demandé la parole. Tu passes.
Est-ce que tu pourrais développer un autre aspect de l'action de la CIMAD qui est moins connu, c'est-à-dire en fait la, l'accompagnement des étrangers dans l'expulsion n'a pas été évité. Qu'est-ce que vous faites dans les pays comme accompagnement? Il y a aussi ce volet.
Oui, alors c'est un volet, c'est un partenariat, un service en fait Solidarité Internationale à la CIMADE, travaille donc en partenariat avec des associations au Mali, au Burkina, Mauritanie, dans différents pays d'Afrique, notamment sur le devenir des personnes expulsées, mais pas que des personnes expulsées, des personnes en transit, puisque on sait évidemment que avec la fermeture des frontières, en tout cas avec la fermeture politique des frontières, et pas que politique, militaire d'ailleurs, hein, puisqu'on envoie des bateaux intercepter les barques, etc. Il y a des zones de non-droit un peu partout dans des pays dits de transit, comme l'Algérie, la Libye, le Maroc, où énormément de populations qui viennent de pays subsahariens ou d'Afrique de l'Ouest vont se retrouver dans des espèces de no man's land juridiques, etc. Et où l'Union européenne va carrément financer la formation de la police, la formation de l'armée sur comment intercepter plus facilement et créer des zones d'enfermement pour ces personnes-là dans ces zones-là. Donc il y a un travail qui se rend plus vers du plaidoyer en fait aujourd'hui, parce que très clairement, techniquement, c'est hyper compliqué. Mais sur une sensibilisation sur place, mais c'est relativement compliqué. Et en Libye, de toute façon, on n'intervient pas. Personne n'intervient. Hein. Dans les camps libyens, personne ne sait ce qui se passe. Quoi. Je t'appelle.
Oui, moi je voulais savoir quand la CIMADE faisait donc des rapports généraux, puisqu'elle était dans beaucoup de centres, et il y avait un rapport très intéressant qui sortait. Donc cette année, je ne sais pas, est-ce que vous allez en sortir un, parce que est-ce que vous avez combien de centres vous avez perdu? Enfin, pas combien, mais avant vous étiez partout, presque.
La notion de perte me gêne un peu parce qu'on n'avait pas une volonté forcément de rester.
J'ai pas pris le bon mot.
Mais non, mais il y a deux rapports qui vont sortir. Il y a un rapport commun avec les autres associations, oui. Puisque jusqu'à présent, pour l'instant, on arrive à avoir un discours politique assez cohérent sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc ce rapport va sortir là. Là, il est en pleine relecture, pour vous dire. Donc il va sortir là très bientôt. On a des données chiffrées puis des données qualitatives et un rapport spécifique CIMADE qui sortira aussi, mais évidemment avec moins de.
Parce que c'est un moyen d'information très très intéressant pour.
Oui, oui, oui.
On sait bien de ce qui se passe dans ces centres de rétention finalement.
Avec ça,
si vous voulez savoir ce qui s'y passe, en tout cas ce qui s'y est passé ces dernières années, et puis là, quand celui-là sera sorti, sur le site de la CIMADE, donc c'est cimade.org, vous avez notamment les rapports des années précédentes, donc avec l'ensemble des données et nos critiques sur ce qui s'y passe. Donc, après, c'est clair que ce n'est pas un outil qui est facilement diffusable sur un grand public, parce que c'est une espèce de pavé avec des choses quand même. Une analyse politique, évidemment, et après beaucoup d'analyses juridiques, d'analyses statistiques, etc. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'analyses politiques quand même dedans. Quoi. Donc ça, il ne faut pas hésiter à aller sur le site pour consulter.
Jean. Bon, je sais que tu n'es pas dans les centres, mais tu dois quand même avoir une idée. Qu'est-ce qu'ils font, les gens, dans les centres? Est-ce qu'ils ont des moyens? Parce qu'en théorie, c'est pas une prison. Quelle est la différence pratique? Et d'autre part, qu'est-ce qu'ils font de leur journée?
De leur journée, ils gambergent.
Non, parce que... Est-ce qu'il y a des journaux, par
exemple? Oui, alors après, il y a des journaux, il y a la télé, il y a...
Voilà, la télé, il y a un poste pour 5-4 personnes.
Non, mais pas forcément, il y a des... Enfin, c'est pour ça que nous, on se dans nos témoignages, contrairement peut-être à d'autres, on ne va pas se... La question de... Évidemment que la question des conditions d'enfermement, elle a son importance, mais pour nous, ce n'est pas un combat en soi. Ils pourraient être enfermés dans des hôtels 5 étoiles, rien à foutre. C'est le principe même d'enfermer ces personnes-là qui pose problème, en notre sens. Donc, si tu veux, les conditions, prenons le centre de rétention de Cornebarieux, c'est un centre de rétention tout à fait récent. qui effectivement ils sont pas plus de deux par chambre dans des lits doubliés. Il y a une cour qui donne sur les pistes, donc ça fait du bruit, mais il y a une cour où tu peux y aller quand tu veux, etc. La bouffe est pas dégueu, etc. Mais c'est pas, enfin, c'est pas le problème n'est pas là, quoi. Donc il y a plus d'une télé pour 50, mais très franchement, personne ne pense à autre chose qu'à regarder la télé, quoi.
Okay. Et, c'est une privation de liberté.
Voilà. Donc, après, il y a de moins en moins en fait de lieux comme on est parti d'Arenque, des zones complètement sordides, etc. Il y a des lieux où c'est, mais l'enfermement en soi, il est dramatique psychologiquement dès le départ. Enfin, on a des personnes qui ressortent de là complètement bouchées, quoi, et qui seront pas récupérables. Hein. Quand tu disais tout à l'heure, j'étais très sensible à ce que tu disais, quand tu disais « je suis quelqu'un de calme et un jour on m'a fait péter les plombs », un quart d'heure on m'a fait péter les plombs, on voit des personnes plus fragiles ou même pas plus fragiles, c'est pas la question, qui seront pas récupérables. Parce que ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'il y a des personnes qui sont enfermées. Je vous le disais tout à l'heure, s'ils ne sont pas expulsés les 6 premiers jours, on va les maintenir 32 jours pour leur faire comprendre qu'on ne veut pas de là. Et si on n'arrive pas à les expulser, dans le meilleur des cas, on va les laisser sortir avec un papier en disant « Je n'ai pas réussi à vous expulser, moi, représentant de l'État, je vous demande de quitter le territoire par vos propres moyens dans un délai de 7 jours. Donc je vous demande d'enfreindre la loi, parce que moi-même, représentant de l'État, je n'ai pas réussi à la faire appliquer. Et si on ne vous donne pas ça, et on le voit, ça se systématise, on va vous poursuivre au pénal, comparution immédiate, pour obstruction à une mesure d'éloignement. On va dire, vous avez volontairement dissimulé votre identité, vous avez volontairement nié que vous avez un passeport, et vous allez prendre 3 mois de prison ferme, vous allez faire un aller-retour à Seyss, vous allez y rester 3 mois, et au retour, vous allez repartir en centre de rétention, on ne pourra pas vous expulser. S'il y a un juge un peu du jour qui dira « bon, ça suffit, je sors », mais on a vu des personnes qui ont fait 3 allers-retours, par exemple. Quand la personne, elle sort de là, je vous laisse imaginer le... Et ça, parce que la personne n'a pas un papier, quoi. Enfin, n'a pas un papier. Alors après, on peut penser ce qu'on veut. Le débat est ouvert sur ouverture des frontières, pas ouverture, contrôle, d'immigration, etc. À la limite, moi, je veux bien débattre de tout, mais s'il y a une chose sur laquelle c'est absolument pas négociable, c'est de criminaliser ces personnes.
Dans mon sens, c'est... Et à Rodez, il y a des cas comme ça. Hein. C'est, il ne faut pas penser que c'est loin. Hein.
Bien sûr.
À Rodez, il y en a des gens qui sont passés 3 fois en centre de rétention, qui sont allés en prison, qui sont interdits de séjour, qui ont une interdiction de séjour, et qu'aucun pays ne veut, et qu'on ne peut régularise pas. Donc, et qu'on ne peut pas expulser. C'est quand même incroyable. Je ne sais pas comment ils tiennent le coup encore moralement, c'est ça.
Moralement, c'est dur.
Je ne sais pas.
Moralement, c'est très dur. Parce que vous imaginez, vous ne pouvez pas vous mettre dans la tête de quelqu'un qui n'a pas de papier, qui n'a pas de titre de séjour en France. Parce que lui, il s'enferme, il a la tête pleine, il ne peut pas penser à autre chose qu'à ses papiers. Autant qu'il n'a pas ses papiers, ça ne va pas dans sa tête. Et quand il a les papiers et qu'il n'approuve pas quelque chose avec quoi gagner son père, et la tête se remplit encore. Donc déjà, vous sortez d'une galère que vous venez de surmonter, vous recommencez une autre galère que vous ne savez pas où terminer. Bon, si vous arrivez à trouver du boulot, bon, ça vous facilite la tâche, vous pensez à rien du tout, vous ne pensez qu'à votre boulot. Vous savez que le matin, je commence mon boulot à 7h, je reviens voir ma famille à midi, je repars à 13h30 pour recommencer à 14h. Là, déjà, la tête, elle est vide. Et vous n'avez pas de soucis. Vous savez qu'à la fin du mois, dès que le 30 ou le 31 arrive, vous savez qu'il y a quelque chose qui tombe sur le compte et que le lendemain, vous allez faire les courses, vous allez remplir un peu le frigo, mettre un peu de prendre des bouquets. Mais si tout ça, ça n'arrive pas, des fois, ça rend fou. Ça rend fou, vous êtes obligé de vous taire. Les gens, ils vont vous voir. telle personne, vraiment, c'était une personne qui était vraiment hyper bonne, mais on ne sait pas qu'est-ce qui lui arrive. Qu'est-ce qui lui arrive? Vous ne pouvez pas le savoir, parce que tout se passe dans la tête.
Comment les enfants ont été scolarisés pendant les 5 ans?
Pendant les 5 ans, ma gamine elle a été scolarisée, il n'y a pas eu de problème pour la scolarisation. Parce que c'est la loi en France, toute personne qui a de l'âge d'aller à l'école, ils sont obligés de l'inscrire à l'école.
Non. Il faut savoir une chose aussi, c'est que l'enfant mineur n'est jamais en situation irrégulière. De toute façon, et quand bien même il y aurait un statut d'irrégularité, ce point pourrait arriver, la scolarité est obligatoire de toute façon, là-dessus, il n'y a pas de... Alors, il y a d'autres problèmes qui se greffent autour. Hein, mais...
Donc, il ne peut pas y avoir de mesures d'enfermement pour les mineurs.
Si. Si. Non. Ah. Juridiquement, non. Oui. C'est un subterfuge juridique, c'est-à-dire que effectivement un mineur ne peut pas être n'est pas en situation irrégulière, donc ne peut pas être enfermé pour absence de papier puisqu'il n'a pas à en avoir, sauf que dépendant du statut de ses parents, eh bien on va dire soit tu vas avec papa maman, soit on te place.
Et on les retrouve dans les centres de rétention.
Oui, il y en aura.
On retrouve toute une famille, des 5-6 personnes, femmes et enfants, et papa.
Et là, ils sont pas scolarisés.
Je peux vous livrer un chiffre en avant-première, super. C'est en 2010 à Cornebarieux, c'est 27 enfants qui ont été privés de liberté, dont une 5 de moins de 5 mois. Donc certains ont passé 32 jours derrière si.
Et il n'y a pas de possibilité de recours administratif pour dire les enfants sont avec leurs parents, donc les parents sortent pour que l'enfant soit scolarisé. Ce serait trop beau.
Et après, il y a un combat juridique là-dessus, mais il n'est pas.
En premier, on vous donne un titre de séjour de 3 mois avant de vous faire un titre de séjour de 12 mois, d'un an. Et c'est un an, c'est renouvelable tous les ans pendant 5 ans.
Est-ce que ça donne droit au droit de RSA, par exemple?
Droit au RSA, autant que si vous avez fait 5 ans et que vous renouvelez vos papiers pendant 5 ans, vous avez droit au RSA.
Pas avant.
C'est pas 5 ans clandestins, c'est un 5 ans avec des papiers.
Oui.
Oui. D'autre part, chacun
paye. Avant, on payait 55 euros tout pour renouveler les papiers tous les ans. Et maintenant, c'est devenu
110.
Aujourd'hui, c'est 110 euros pour payer les timbres fiscaux.
Et par personne.
Et au bout de 5 ans, qu'est-ce
qui se passe? Au bout de ces 5 ans, il y a d'autres qu'on convoque à la préfecture pour faire des entretiens. Est-ce que vous parlez français? Est-ce que vous connaissez les lois françaises? Comment ça se passe en France?
Là, tu peux avoir une carte de séjour plus longue
de 10 ans.
J'ai une carte de séjour de 10 ans.
Sauf que c'est pas.
Mais c'est absolument pas automatique.
Non.
C'est, encore une fois, c'est là aussi sur la carte de 10 ans, il y avait des délivrances de plein droit jusqu'à 2006.
Avec ces cartes de 10 ans aussi, si vous n'apportez pas les fiches de paie, vous n'avez pas le droit, c'est des cartes de 10 ans. Parce que si vous ne travaillez pas, et que vous avez un titre de séjour d'un an. Tous les ans, vous allez à la préfecture pour renouveler. On vous redonne toujours les mêmes titres d'un an.
Ça n'a rien à voir avec le statut de réfugié politique et tout ça, c'est pas pareil.
Non. Ce sont deux choses différentes.
Après, le statut donne droit à une carte directement de 10 ans. Et
intéressant de dissocier ce que c'est les personnes qui sont réfugiées et les personnes qui ont une carte de séjour, si vous pouvez expliquer.
Le statut de réfugié, en fait, il est livré par l'OFPRA. On en parlait tout à l'heure, l'Office français de protection des réfugiés apatrides, qui est un organisme indépendant placé sous tutelle du ministère de l'Intérieur, qui délivre donc ce statut. Si vous avez, si vous obtenez la protection, cet organisme-là n'est pas habilité à aller au-delà. Il dit, oui, je vous accorde la protection de l'État français, donc maintenant vous dépendez, en termes d'État civil, etc., de l'OFPRA. Et donc, avec votre accord, vous allez en préfecture, et là, on va vous délivrer directement une carte de 10 ans. Voilà.
Et l'autre, c'est un autre institut. Oui. Toi, tu as quitté ton pays utilisé par rapport à la guerre. Ça,
oui.
Ça ne donne pas le statut de réfugié politique.
Ah, mais
c'est pas une... La guerre, c'est pas un cas de réfugié politique. Enfin,
c'est un cas. C'est un cas, mais vous, quand on convoque à l'OFPRA et qu'on vous demande tous les papiers ou les questions qu'on vous pose, vous les répondez. Mais quand vous partez de chez vous, ça, vous n'avez que votre pièce d'identité. C'est soit vous restez et vous partez, soit vous reprenez les armes. Vous venez demander un statut de réfugié, on vous demande des preuves. Comment étant resté en France, reprendre les mêmes preuves qui sont que vous avez laissées derrière vous.
Oui, parce qu'en général, l'OFPRA ne se contente jamais d'une situation générale critique. Il faut que la personne prouve qu'elle est personnellement menacée. Et s'il n'y a pas assez de preuves, on considère que les actions, ce n'est pas suffisant, qu'on n'a pas rapporté la preuve dans le cas de danger.
Effectivement, le contexte du pays d'origine ne suffit pas en soi. C'est une étude individuelle. Après, il y a une vraie dérive en matière de droit d'asile en France, mais un peu partout en Europe. C'est cette notion de preuve. La preuve n'a même pas à exister dans le droit d'asile, puisque je vais vous citer la Convention de Genève, qui est transcrite telle qu'elle dans le droit français. Donc c'est une convention internationale ratifiée par le Parlement français et donc qui s'applique en France, et qui stipule que, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le statut de réfugié est accordé à toute personne qui craint avec raison d'être persécutée dans son pays. Qui craignent avec raison. La crainte n'implique pas en soi, ça a été jugé d'ailleurs, la crainte n'implique pas en soi qu'on ait été persécuté. Elle implique qu'on craigne d'être persécuté. Et très souvent, les personnes arrivent, beaucoup arrivent après avoir vécu effectivement de terribles sévices, etc. Mais d'autres, heureusement, ont réussi à y échapper à temps. On ne va pas pouvoir exiger des preuves à ces personnes de choses qui ne sont pas arrivées. Et pourtant, il y a une vraie dérive, y compris dans l'instruction des dossiers. Alors c'est pour ça qu'on gagne plus souvent le statut à la Cour nationale du droit d'asile, qui est le tribunal administratif qui juge exclusivement les refus d'asile. Mais il y a une véritable dérive, et puis qui s'inscrit un peu. On dit, tiens, mais si tu ne peux pas le prouver, tu ne pourras pas demander. Non, une question de preuve, c'est une question de convaincre la personne qu'on a en face. C'est hyper subjectif.
Oui, il faut savoir qu'il n'y a que 17% d'accord entre l'OFPRA et la CNDA. La CNDA, c'est la commission des recours.
Non,
pas d'accord.
Non, c'est 32%.
Ah bon, alors excusez-moi,
je t'ai dit. 17, c'est en première instance.
À l'OFPRA.
Et est-ce que l'OFPRA a des quotas, puisqu'il est sous dépendance officiellement?
Non, après je disais, attention, mais je disais de manière un peu ironique, organisme indépendant sous tutelle, il est sous la tutelle, il n'est pas complètement indépendant. Après, tous les officiers de protection qui reçoivent les personnes ne sont pas des méchants qui ont pour seul but de tout faire pour ne pas vous accorder le statut. Ça serait malhonnête de ma part que de dire ça. Ce serait malhonnête aussi, je pense, de dire qu'il y a des quotas. Parce que, objectivement, quand on étudie réellement la question, on n'est pas en mesure de le prouver. Donc ça serait assez malhonnête de le dire. Après, qu'il y ait des pressions, oui, évidemment. Mais la question, elle se joue bien avant. Tout à l'heure, je disais, on est lié par cette convention. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'empêcher les gens de pouvoir demander cette demande d'asile. C'est là l'enjeu, en fait. Pourquoi, quand un bateau de Kurdes syriens s'échoue en Corse, sur les plages de Corse, on va essayer, le ministère va essayer, plutôt que de dire on va vous mettre dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile pour que vous puissiez faire votre demande d'asile et qu'on l'étudie, pourquoi il y met un centre de rétention, il tente le coup pour essayer de les expulser? C'est bien évident, pour ces personnes, il n'est pas l'opportunité de demander l'asile et passer outre cette convention de Genève. L'idée, elle est systématiquement de régler ça en amont.
Et administrativement, et pas juridiquement.
Oui, tout à fait. Voilà.
La Cour internationale des droits de l'homme, elle joue un rôle, déjà, ou pas?
Non, alors, il y a la Cour de justice des communautés européennes qui peut rendre des décisions. C'est une cour qui peut être saisie après avoir épuisé toutes les voies de recours en droit interne. Donc c'est particulièrement, la plupart du temps, c'est des arrêts de principe qui vont être pris, qui ont leur importance, mais ça ne règle pas des cas individuels, ça va faire de la jurisprudence qui va permettre à d'autres personnes d'en profiter après. Mais, mais après, la France est régulièrement condamnée. Pour diverses atteintes.
Plus que d'autres pays?
Je ne pourrais pas vous dire, je ne sais pas particulièrement. Après, en Europe, la France, très clairement, c'est pas le, en matière d'enfermement. Après, ça a tendance à s'uniformiser, mais la France, par exemple, l'enfermement administratif est toléré est possible jusqu'à 32 jours, vraisemblablement 45 après le vote de la loi Besson. Il faut savoir qu'en Allemagne, c'est 18 mois, et qu'à Malte, c'est illimité. Donc, après, on peut faire un jeu de comparaison en disant on est mieux loti, mais enfin, au bout du bout, une personne, qu'elle soit enfermée 32 jours... Non, c'est pas pareil que si elle est fermée 6 mois, mais je veux dire le principe.
Oui.
Oui.
Je disais, si vous avez vu le film illégal qui se passe en Belgique, on s'aperçoit que la personne est restée finalement 7 mois en centre. Ce qui correspond chez nous au centre de rétention, avant de sortir par ses propres moyens. Elle s'est évadée.
Oui. Et vous avez dit que la France est régulièrement condamnée. Elle est condamnée à quoi? Et qu'est-ce que ça change pour la suite?
Elle est condamnée à deux niveaux. Soit parce que sa législation interne n'est pas en conformité avec le droit européen et la Convention européenne des droits de l'homme. Dans certains cas, c'est quelque chose qui arrive. Alors, le problème, c'est qu'après, c'est hyper juridique. Alors,
mais est-ce que ça fait changer les choses, le fait
oui,
que ce soit condamné?
Ça fait changer les choses. Par exemple, là, actuellement, la France n'y a pas transposé à temps une directive européenne de 2008 qui permettait, sur toute mesure d'éloignement, on doit proposer un délai de départ volontaire. C'est-à-dire que quand vous faites signer à quelqu'un un arrêté d'expulsion, vous devez lui permettre un délai entre 7 et 30 jours où il a le choix de partir de lui-même. N'existant pas sur certains types des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, tous ces arrêtés là, de janvier à février ont tous été annulés, par exemple. Il y avait notamment avec une décision de la Cour de justice européenne. Mais ça peut, après, c'est sur des cas individuels qui vont faire jurisprudence, mais qui vont faire jurisprudence sur des, ce qu'on appelle des cas d'espèce, en fait. C'est-à-dire, il faut, si une personne est exactement dans la même situation, c'est quand même assez rare, en fait, elle pourra se prévaloir de ça. Mais donc, ça a son importance, mais c'est un débat juridique qui n'est pas forcément, en fait... Après, il y a des condamnations de principe. Il y a des condamnations de principe, mais qui n'obligent à rien. Par exemple, euh, la Cour a condamné il y a 3 ans de ça la France en disant, mais pas que la France d'ailleurs, en disant l'enfermement des enfants, la venue de moins de 12 ans, je sais pas quoi, constitue un traitement inhumain et dégradant. Voilà, mais ça s'est arrêté là. C'est pas quelque chose qui oblige.
Je sais pas si vous avez dit combien il y avait de demandes par an.
D'asile, si, mais après, pour le reste...
D'asile de réfugiés, alors
non. Oui, les demandes d'asile, en fait, pour 2010, ça sent vraisemblablement entre 30 et 40 000 demandes.
Entre 30 et 40 000 non. Et les demandes de papier.
Ah, alors.
Faut vous... pas avoir, ça hein.
Si, vous appelez le ministre et vous le direz.
C'est lui qui l'a chargé.
Des gens qui sont dans une situation de demandisant de...
Ben là, c'est encore plus compliqué, évidemment.
Ça a été évalué, ça ?
Oui, c'est évalué autour de 400-500 000 personnes, quoi, mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce que c'est une estimation. C'est pas... Voilà, il n'y a pas de... Voilà, c'est estimé autour de 400 000.
Je voudrais dire que dans le cadre du collectif de Rodez, il y a eu des demandes de régularisation, pour que les gens se signalent à un collectif de sans-papiers. Hein. Là, ce n'est pas CIMAT, ce n'est pas des organismes comme ça, c'est un petit collectif ruténois d'une autre ville. Avant que les gens fassent la démarche, comme Momo a pu faire avec d'autres, de dire « je suis sans-papier et je veux apparaître sur la place publique en tant que sans-papier et la France, n'importe quel pays, me doit, entre guillemets, doit faire quelque chose pour moi », il faut déjà qu'ils soient costauds, les personnes, pour aller faire cette démarche. Alors, il n'y a pas de secret. Quand on en recevait 10, on savait qu'il y en avait 10 qui ne se signalaient pas pour dire « j'ai pas de papier ». On l'estimait, on savait que... On se demandait même pourquoi ils ne venaient pas. On n'avait pas de chiffres. On savait que les gens... Tout le monde ne vient pas se signaler sans papier.
Ah oui, parce que les gens, ils ont peur. Quand on sort, est-ce que je vais rencontrer des flics qui vont mettre les menottes de suite? Parce que quand on me demande les papiers, je n'en ai pas. Je me retrouve au commissariat. Et du commissariat, le jour même, je me retrouve dans un centre de rétention. Mais avant que le tribunal administratif ne statue sur son sort, et ils ont toutes les possibilités de vous faire renvoyer dans un pays... où ils ont des conventions. Donc c'est pour ça que les gens, ils n'osaient pas se signaler.
Pour dire un peu la galère aussi des sans-papiers, c'est vous prenez un sans-papier il y a une dizaine d'années de ça, après le Momo et d'autres, vivant chez des loueurs d'appartements, si on peut appeler ça des appartements, c'est-à-dire pas très salubres. Bon d'accord, les mecs payent pas, ils n'ont pas d'argent. Donc le bailleur, il va les laisser un petit moment, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il leur faut quand même l'électricité, ils n'ont pas d'argent pour la payer. Donc des démarches pour faire mettre un compteur minimum, sachant qu'EDF n'a plus le monopole de l'électricité, les autres entreprises qui vendent de l'électricité n'ont pas forcément les mêmes obligations envers ces personnes-là. Là où on avait une possibilité de faire mettre un compteur à 2 kW minimum, qu'ils aient au moins la lumière, voire un frigo, voire un truc comme ça, une autre compagnie d'électricité n'aura pas forcément, actuellement, la même, entre guillemets, gentillesse, les mêmes devoirs publics.
Les mêmes devoirs.
Donc les difficultés, pour en parler bien mieux que moi, ça galère et ça ne s'arrange pas. Mais ils sont costauds, ils y arrivent.
Bon, avant, la majeure partie, le gardait pour eux. Moi, je le gardais tout le temps pour moi. Parce qu'il y a sorti, dire, ah, vraiment, aidez-moi, j'ai pas ça, aujourd'hui, avant, je passais une journée entière, sans même boire un café. Mais j'ai trouvé qu'il fallait pas faire ça. Il fallait le sortir. Déjà, tu n'as pas de papier, d'accord. Mais tu restes foiré dans la maison, tu n'as pas de quoi manger, de quoi faire nourrir à ta petite famille, c'est autre chose, c'est encore plus dur. Donc on est obligé d'aller voir les collectifs, les volontés, le CCAS, les assistants sociaux. On est obligé de passer partout, partout pour faire subvenir aux besoins de notre famille. Vous êtes dans un logement. Moi, j'ai fait 2 ans sans payer de loyer. Heureusement que le propriétaire, il était hyper cool. Il a compris ma situation, la situation dont j'avais, il a vite compris. Et il ne pouvait pas faire autrement que de me laisser chez lui. Il pouvait m'expliquer. Mais bon, en termes humanistes, il m'a laissé là, jusqu'à ce que j'ai obtenu mes papiers, et on a essayé de... Et après, on lui a rendu sa maison.
Oui.
J'ai encore une question.
Vas-y, vas-y, c'est toi. Ah, je regarde dans la glace parce que je te voyais
pas direct. du CCAS. Le CCAS, c'est un organisme...
C'est le centre communal, voilà, d'action sociale.
Et donc, il n'y a pas de collusion entre justement différents organismes publics, dont la police, et ce CCAS. Vous en restez à l'organisme, comment ça marche?
Non. Après, il y a des organismes qui existent dans certaines villes. Ça a pu se faire à un moment sur Toulouse. Par exemple, des policiers qui, par hasard, font des interpellations près de certains lieux gérés par les CCAS. Voilà, mais non, on ne peut pas dire que... Non, pas encore. Il y a des tentatives, après. Vous avez là, récemment, à Toulouse, des salariés de la CPAM qui ont manifesté parce qu'on leur demande de vérifier les papiers d'identité, etc. Donc il y a des tentatives, si vous voulez, de faire un travail de police à des organismes publics ou parapublics. Mais après la collusion de fichiers, etc. Théoriquement, c'est interdit en France le partage de fichiers.
Pas de cas de négociation.
Si. Après, je crois que le poids de l'histoire joue quand même son rôle, c'est-à-dire que les juges ont du mal à maintenir par exemple un placement en rétention d'une personne qu'on voit sur le préavis d'interpellation que appel anonyme a fait qu'on est intervenu, etc.
Ça rappelle.
Ils ont un peu de mal, donc en général c'est annulé quand même. Mais c'est des choses qui se développent, et y compris on a il y a quelques années, sur Toulouse, mais pas que d'ailleurs, il y avait eu quand même une certaine pratique, et je pense que ça se fait encore, mais moins parce que c'était vachement annulé. Il y avait énormément d'appels anonymes, enfin, énormément après de proportions gardées, de dénonciations de travailleurs sur des chantiers, comme par hasard, entre le 20 et le 30 de la fin de chaque mois. Donc, l'employeur, il met son petit mouchoir, il appelle la préfecture. Et ça s'est fait quand même dans des proportions quand même assez importantes.
Mais si un appel anonyme casse l'arrêté d'expulsion, ça peut être intéressant d'en faire plein.
Ben, je vous laisse la responsabilité de le faire. Hein. Non, mais je sais bien. Mais...
Si, ou alors pour désorganiser les services, en faire plein les bidons.
Il faut avoir quelqu'un à dénoncer.
Non, c'est des gens sans papier, tu peux nous raconter n'importe quelle identité.
Ah oui, sauf si vous appelez dans une cabine publique.
Oui.
Si vous appelez dans une cabine publique, on ne peut pas vérifier votre identité, mais si vous appelez de la maison, là, de suite, vous avez votre numéro de téléphone qui s'affiche directement sur les flics.
Et donc, pour obtenir vos papiers, est-ce que vous avez demandé d'avoir un CDI, c'est-à-dire un contrat à durée indéterminée? Comment ça s'est passé? Comment au final vous avez obtenu vos papiers?
Pas à l'époque, non.
C'est après la guerre de la Crimée.
À l'époque, non. C'est après qu'on a donc commencé à demander les contrats d'embauche.
Avant, c'était une promesse.
Une promesse d'embauche.
Mais
maintenant, il faut un contrat d'embauche.
Sous condition, bien sûr, qu'il soit régulier.
Et tout ça, c'est pour juste rétablir tout le temps les séances.
Bon, il faut que tu expliques, c'est peut-être après la grève de la faim que vous avez fait à plusieurs, qui en avaient la moitié, qui avaient
combien de temps?
Combien de temps et tout ça? Ça jouait la grève de la faim.
Oui, on a fait de la grève de la faim durant 11 jours. C'était du 1er janvier au 11 janvier. Et après, on a continué avant que les choses ne soient en beau terme. On s'est déplacé du premier lieu où on avait commencé la grève de la peine, mais on a continué sur un autre site. Non, sur les 12-13 personnes qui avaient fait la grève de la faim, il n'y en avait qu'un qui est resté, qui n'est pas régularisé, qui a été expulsé.
Et donc, vous avez des nouvelles ou pas?
Oui, c'est votre question.
Bon, moi personnellement, j'ai jamais eu ces nouvelles.
Oui.
Au niveau de la CIMAD, est-ce qu'il y a un suivi des expulsés, justement? Est-ce qu'on sait ce qu'ils sont devenus? Comment ils ont été accueillis dans le pays?
Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, pas spécifiquement. Il y a un travail qui est fait autour de ça avec des associations partenaires, notamment au Mali, avec l'association des Maliens expulsés qui fait tout un travail là-bas. Mais non, c'est super compliqué. Parce que, y compris après, il y a des personnes qui sont éloignées qu'on ne voit pas. Toutes les personnes qui sont expulsées ne passent pas forcément en rétention, hein, d'une part. D'autre part, il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie aussi d'être suivies là-bas. Et puis pour celles qui le souhaitent, après, il faut être que des associations sur place soient en mesure d'entrer en contact, d'avoir du lien, etc. Il y a des choses qui se font, mais ce n'est pas quelque chose de systématique, loin de là. Après, il y a des individus qui le font. Enfin,
Je voulais juste une dernière intervention. Pendant la guerre en Serbie, Bosnie-Herzégovine, je suis tombée sur un papier de la Ligue Amnesty International. Donc, vous voyez, cette horrible guerre, j'ai été pendant la guerre en Bosnie. Et en Serbie, on demandait aux jeunes de faire des choses abominables. J'ai lu beaucoup de rapports sur les tortures qui ont été perpétrées durant cette guerre. Et donc, ceux qui étaient vers l'Autriche fuyaient vers l'Autriche, au nord, en Europe. Ils étaient renvoyés chez eux, selon la loi apparemment européenne, comme ils étaient déserteurs. Et ça s'est passé pendant la guerre en Serbie, donc ce n'est pas un autre continent. Voilà. Donc il y a une hypocrisie phénoménale, et je ne pense pas qu'on ait été faire une enquête sur savoir ce qu'on est venu nous faire pour les renvoyer chez eux.
Oui, non, enfin, qu'il y ait des choses aberrantes qui se passent, c'est clair. Après, il n'y a pas de règle européenne qui oblige un État européen à renvoyer une personne qui a déserté.
Oui, ça m'a surpris.
Non, mais parce que ça n'existe pas. Mais après que ça se soit passé, je ne le mets pas en doute. C'est clair que, encore une fois, les États européens, s'ils peuvent éviter d'avoir à appliquer la Convention de Genève qui traîne comme ils voulaient, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Mais il n'y a pas de règle qui indique qu'on doit refouler une personne parce qu'elle aurait déserté. Non.
Il y a une loi qui permet de renvoyer les migrants dans le premier pays où ils sont rentrés dans l'Union européenne. J'ai entendu parler d'une loi comme ça.
Les demandeurs d'asile. Donc c'est le règlement Dublin 2, qui est le règlement qui détermine l'état de l'Union européenne responsable de la demande d'asile d'un demandeur d'asile. Si quelqu'un arrive en France et qui demande un titre de séjour, qui ne demande pas l'asile, il a beau être passé par n'importe quel pays, l'état français est obligé d'étudier sa demande. Mais s'il sollicite l'asile, effectivement, c'est le premier pays par lequel il est rentré, ou le pays qui aurait délivré un visa, mais c'est extrêmement rare que des demandeurs d'asile aient obtenu un visa. Donc, en soi, ce ne serait pas complètement incohérent s'il y avait des règles d'études du droit d'asile homogènes au niveau européen, puisque effectivement, si tous les demandeurs d'asile arrivaient à un endroit, ça peut créer, on ne peut pas forcément les accueillir dans de bonnes conditions, etc. Pourquoi pas ? Si on élabore d'un point de vue très strict le fait de pouvoir quand même le demander dans l'endroit où on a sa famille, par exemple, et si on n'a pas de famille, effectivement, si c'était traité de manière cohérente. Mais le problème, c'est que vous avez des pays, comme par hasard, qui sont les derniers remparts de l'Europe, à savoir la Pologne et la Grèce. La Pologne par laquelle passent la plupart des Tchétchènes, la Grèce par laquelle passent la plupart des Afghans, des Iraniens, des Irakiens, etc. Le droit d'asile n'est absolument pas respecté. C'est-à-dire que c'est un enfermement systématique des demandeurs d'asile, une étude à minima des droits. En Grèce, en 2009, c'est 59 000 demandes d'asile, 0,04% d'accord. Donc on peut imaginer qu'il y ait peut-être au milieu quelques fausses demandes, de là à ce qui est 96% de fraudeurs, ça pose question. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que... C'est Hortefeu, avant de partir, qui a dit bon, on va arrêter de renvoyer, en fait, dans le cadre de ce règlement, les gens vers la Grèce, parce que la Grèce est condamnée là très régulièrement pour atteinte au droit d'asile. Donc, mais ça pose quand même des problèmes. On renvoie vers la Pologne, etc. Mais c'est pour les demandeurs d'asile.
Concrètement, la semaine prochaine à Odesse, 10 familles vont avoir la vie de réadmission en Pologne. Ce sont des Tchétchènes, majoritairement. Alors on fait tout ce qu'on peut pour éviter que ça se passe, mais ça va être très compliqué de l'éviter. Donc concrètement, ce règlement-là...
Par contre, il met la France dans des situations relativement inconfortables, parce que c'est difficile quand on vient d'un pays de l'Est, d'arriver en France sans traverser un pays de l'espace Schengen.
En fait, l'enjeu pour les demandeurs d'asile, c'est de traverser sans vraiment se faire interpeller, puisque vous avez un fichier qui s'appelle Eurodac au niveau européen, qui est le fichier de prise d'empreinte des demandeurs d'asile. Et en fait, c'est systématique en Grèce, en Pologne, etc. Les personnes arrivent, on prend les 10 empreintes, les poignets, etc. C'est sur un fichier. Vous allez en préfecture à Toulouse ou à Montauban, c'est les deux bornes qui existent dans la région. Pour Rodez, ils vont à Montauban. Un demandeur d'asile qui arrive à Rodez, on va l'envoyer à Montauban pour se faire prendre les empreintes. Et après, on va savoir s'il est allé
au frais de la République.
Non, on ne va pas lui payer l'aller-retour. Donc,
c'est nous qui accompagnons.
Après, si la personne ne s'est pas fait choper, si on a un demandeur d'asile qui vient, qui nous dit ah, je suis passé par là, est-ce que vous avez rencontré la police, etc. Bon, ben, on va dire soit je suis passé dans des endroits, mais j'étais dans un camion, j'ai pas vu, ou alors je suis arrivé dans tel port. Voilà, on va omettre de raconter précisément le parcours, mais. Pour que la personne puisse bénéficier de la procédure.
Moi, je voulais poser une question parce qu'on a un cas très précis. Hein. Quelqu'un qui a eu ses empreintes prises à Montauban
il y a un mois. Mm-hmm. Ses empreintes n'étaient pas visibles. On l'a reconvoqué à Montauban, il habite à Rodez. Hein. Mm-hmm. On l'a reconvoqué à Montauban hier. Mm-hmm. Il est allé, les empreintes ne sont toujours pas lisibles. On lui a dit d'aller chez un dermatologue. Mm-hmm. Et il paraît qu'on va le redemander. Alors je ne sais pas si c'est possible ça. Bon, il va recommencer encore dans un mois à reprendre des empreintes.
Si, parce que, malheureusement, un dernier lieu, le Conseil d'État, il a tranché sur la question des empreintes illisibles.
Oui.
Et c'est pas favorable, c'est-à-dire qu'en gros, après ça dépend de la situation particulière, oui. Peut-être pas.
C'est les gardes qui lui redemandent.
Ouais. Ils vont pas pouvoir entamer la procédure.
Il y a des gens qui brûlent leurs empreintes, non?
Ah oui, il y en a.
C'est pour ça qu'en fait le Conseil d'État a tranché là-dessus, c'est que ça arrivait à de telles, les gens ne voulaient tellement pas repartir qu'il y a des gens qui se mutilaient, quoi. Qui se brûlaient en fait les. Et donc le Conseil d'État a tranché que c'était une mesure d'obstruction et que du coup.
Mais il y a vraiment une très grande peur chez tous ces gens-là. Enfin, les gens qui vont passer en commission de réadmission la semaine prochaine, ils ont tous une dingue. Ça, c'est. Ils vivent dans la peur, bon, comme tu disais, Momo, hein, mais moi, ça me fait mal au cœur, vraiment.
Ah oui.
Ils sont dans la peur continue.
Ça vous fait mal au cœur. Et ils ont toutes les pensées. Est-ce que quand ils vont me prendre, je vais me mutiler devant eux ou je vais me plonger dans quelque chose devant eux ou je vais sauter devant une voiture ou un train? Ça, personne ne peut le savoir. Parce que tout se passe dans la tête. Mais vous imaginez? Vous restez là pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, et qu'on vous met des menottes pour vous attacher et pour vous rapatrier dans un pays conventionnel avec la France. Déjà, c'est pour vous, dès que vous descendez, c'est la première personne que vous voyez devant l'aéroport, vous vous êtes sur lui. Une fois que vous montez dans l'avion, et si on ne vous a pas endormi, vous êtes obligé de faire un scandale pour qu'on vous fasse descendre.
Qu'est-ce qui se passe pour les candidats à l'immigration donc, qui arrivent en ayant volontairement, s'étant volontairement séparés de leurs papiers, c'est-à-dire qu'ils sont sans papiers d'origine, de leur pays d'origine, ils arrivent tout nus et donc ne veulent pas dire leur nationalité d'origine. Et qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là s'ils peuvent rentrer dans le cadre donc des deux jours à l'heure actuelle
De toute façon, on ne peut rien faire sans une pièce d'identité.
À part la demande d'asile.
La demande d'asile, vous pouvez dire, je suis de telle nationalité, de telle nationalité.
Est-ce que ça protège de n'avoir même pas ses papiers d'origine?
Mais non, enfin, ça protège. Après, c'est une question qu'on ne peut pas se mettre à la place des gens.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font
ça. Non, mais si des personnes font ça, c'est qu'elles ne veulent pas être éloignées. Donc elles partent déjà avec le principe qu'elles n'auront pas les papiers. Donc elles partent avec le principe qu'elles ne vont même pas solliciter. D'accord? Elles ne viennent pas pour avoir des papiers. Elles viennent pour venir en France ou à cet endroit se démerder, mais elles savent qu'elles ne demanderont pas de papier quand elles font ça. Parce qu'elles n'auront pas d'accès à une procédure. Et ce qui, d'une certaine manière, se comprend. Enfin, n'interprétez pas mal mes propos. C'est vrai que c'est compliqué, sauf à considérer, effectivement, ensuite, c'est un autre débat, si je le lance maintenant, on en a pour des plombs, mais sur la question de à ce moment-là, ça serait sur une question de liberté d'installation. Et à ce moment-là, c'est vrai que la question de l'identité, elle devient aléatoire sur la question du séjour, puisqu'il y aurait une liberté d'accès totale, mais elle posera fondamentalement un problème pour accès à différents droits, ne serait-ce que. Donc, en soi, c'est des personnes qui ne sont pas dans cette démarche-là.
Est-ce qu'il n'est pas vrai qu'il y a des personnes qui cachent leurs papiers pendant un certain temps et qu'ensuite...
Bien sûr.
Voilà, c'est ça.
C'est ce que tu veux dire aussi. Si tu veux, quand ils arrivent, ils cachent les papiers, mais après, quand ils en ont besoin, ils les retrouvent.
Ah, ils sont obligés de les retrouver, parce qu'on ne peut pas vous délivrer un titre de séjour sans que vous les déposiez un passeport. C'est quand même possible.
Oui, je me souvenais, moi, d'avoir vu dans le temps un reportage sur le fait que du fait qu'ils arrivaient, qu'ils n'avaient aucun papier, on ne savait pas de quelle nationalité ils étaient, et donc du coup on ne pouvait pas les renvoyer dans un pays, ni l'un ni l'autre. Un Malien, un Soudanais.
Non mais c'est vrai. C'est vrai, sauf que ça n'empêche pas la personne d'être placée en rétention, qu'on la soumette à de véritables pressions. D'une part à l'intérieur pour donner sa vraie identité, et ensuite la faire aller dans tous les consulats pour demander est-ce qu'il est à vous, est-ce qu'il est à vous, est-ce qu'il est à vous. Et je peux vous dire que pour rencontrer des gens qui ont vécu ça quasi quotidiennement, c'est pas facile à supporter. Donc oui, il y a des gens qui le tentent, et c'est d'ailleurs pour ça que la France essaie avec insistance de faire signer des conventions bilatérales avec certains pays d'Afrique pour pouvoir expulser sans accord de ces pays, avec d'ailleurs un chantage sur l'aide au co-développement. Le Mali, qui refuse de signer la convention bilatérale en matière de réadmission de Maliens, mais aussi de toute personne que la France, dont la France considérait qu'elle, dans son parcours migratoire, elle serait passée par le Mali, de pouvoir les expulser sans autorisation expresse du Mali. Le Mali est rentré dans un rapport de force avec la France en refusant de signer cet accord, et il y a eu une diminution substantielle de l'aide au développement. Donc, il y a un véritable chantage de ce niveau-là.
D'autre part, ces gens-là, ils existent un peu partout en France, mais en Aveyron aussi, des gens qui ont une obligation de quitter le territoire français, mais qu'aucun pays ne veut reconnaître. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, qui vote 3-4 fois en centre de rétention. Mais, je ne sais pas, ils ont un statut qui, en principe, n'existe plus. Ce sont des apatrides, de fait.
De fait, oui. Mais pas de droit, malheureusement.
Et pas de droit, puisque ça n'existe plus, en théorie.
Si, en théorie, ça existe, bien sûr.
Oui, mais enfin...
Vous pouvez solliciter un statut d'apatride, mais le problème de ces personnes, c'est que souvent, en droit, elles ne sont pas apatrides, parce que si vous regardez effectivement le code de la nationalité, c'est ça le statut d'apatride, on compare des codes de la nationalité, en fait. Et potentiellement, elles pourraient obtenir la nationalité de tel pays, sauf que ce pays, pour des raisons diverses, on le voit très bien pour les Arméniens, les Azéris, etc., pour des raisons liées à l'évolution géopolitique de ces pays, elles ne seront jamais reconnues par ces pays-là, mais pour autant, théoriquement, en fonction du lieu de leur naissance, etc., elles peuvent potentiellement avoir la nationalité arménienne, etc. Donc c'est une question juridique assez complexe, mais qui place ces personnes-là dans un truc complètement inextricable, quoi. Jusqu'à ce qu'un juge prenne ses responsabilités. Là aussi, il faut pointer aussi certaines frilosités de magistrats. Hein. Tout à l'heure, je faisais un peu l'éloge du juge des libertés, parce que sur le concept, c'est quand même assez important, cette séparation de pouvoir, et qu'il y a un garant indépendant, censé être indépendant des libertés individuelles. Pour les juges administratifs, c'est pareil, mais sauf que un juge administratif pourrait à un moment donné dire une personne dans cette situation-là, c'est absolument pas possible, vu que vous n'arrivez pas à déterminer, j'ordonne la délivrance d'un titre de séjour. Il peut le faire, sauf qu'ils ne le font pas.
Vous avez parlé de Mayotte tout à l'heure.
Ouais, je pourrais développer, c'est absolument à cause de ce qui se passe là-bas. C'est hors de cadre à l'appel. C'est des mineurs qui sont en centre de rétention, des mineurs isolés en centre de rétention. L'expulsion sans contrôle de juge, le refoulement sur les plages. Vous avez quasiment tous les jours des morts sur les plages de Mayotte. C'est
entre l'Afrique
et Madagascar. Donc c'est un tout nouveau département français.
Si,
C'est aujourd'hui qui est dans les lieux.
Il devait, mais qu'ils n'ont pas élu, et donc la ministre n'y est pas allée.
Si, mais ils ont élu. Puisque il manquait des députés, mais
après, pour comprendre, Mayotte, c'est un État qui est. C'est un État. C'est un
territoire.
C'est un territoire qui est. Comment dire, ça appartient à l'archipel des Comores. Et vous avez une partie des Comores qui a obtenu l'indépendance à une période, et la France a décidé de garder de manière absolument. Enfin, tout à fait unilatéral et hors cadre international, puisque ce n'est pas reconnu. L'ONU ne reconnaît pas l'annexion de Mayotte, en fait. Vous avez, en fait, du coup, la population comorienne qui a été scindée en deux parties, ceux qui sont restés français et les autres. Et du coup, vous avez des. Enfin, c'est des enjeux. Enfin, il faudrait une soirée sur Mayotte, mais. Parce que c'est super compliqué. En gros, vous avez plus d'un tiers de la population qui est une population entre guillemets clandestine. Elle n'est pas clandestine de fait, elle est là. Mais, enfin, c'est super compliqué ce qui se passe là-bas. Il y a un énorme racisme des Maorés à l'égard des Comoriens, lié à un contexte social qui est c'est super compliqué. Mais par contre, il y a des atteintes aux droits de l'homme tous les jours. Il y a des très bons documentaires qui ont été faits sur Mayotte, je n'ai pas les titres en tête. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dessus qui permettent d'éclairer un peu. Mais, Pardon ?
Ah oui, c'est le bras.
Oui, tu poses ta question.
Je voulais savoir si la CIMAD était appelée à siéger dans des positions politiques nationales ou européennes, les instances où ça se fait pour les associations, de siéger dans certaines commissions politiques, soit au niveau national ou au niveau européen.
Non, quel type de point?
Je ne sais pas, il y a eu un débat sur l'identité nationale. Est-ce qu'à un moment donné, la CIMAD est invitée à venir préparer
des... Oui, on a été invité, on a refusé de participer. Oui, oui, alors c'est pas siéger, c'est être invité à des choses, oui. Sur le débat sur l'identité nationale, effectivement, on était invité, on n'a pas répondu. Après, on a un travail de lobbying, si vous voulez, on va pouvoir être audiencé par des commissions parlementaires sur des projets de loi, etc., effectivement. Oui. Et ça, on y va volontiers, par exemple. Là, dans le cadre du projet de loi Besson, on a rencontré l'ensemble des groupes parlementaires pour leur faire part de nos projets.
S'il n'y a plus d'autres questions,
ce serait bien qu'on dise quand même qu'il y a un collectif de sur Odesse, peut-être donner un peu quelques indications pour les gens qui sont là, qui voudraient peut-être.
Ah oui, rapidement, le collectif des réfugiés, c'est pas un petit collectif, en fait, parce que ça regroupe énormément d'associations de toutes sortes. C'est la force du collectif. Parti politique, syndicat, association, depuis 12 ans. Et on y travaille et on fait une permanence d'accueil des réfugiés tous les mercredis de 17h à 19h. Ce qui fait que ça permet d'avoir des. À Rue Sainte-Catherine. Et en fait, si vous voulez, on accueille des personnes qui ne savent plus où aller, en fait. On ne les accueille pas pour des problèmes financiers, quoi qu'ils viennent pour ça. On les accueille pour essayer de détricoter leurs problèmes administratifs. On essaie de rester là-dessus. Souvent, on est obligé de donner aussi un peu d'argent. Mais c'est un collectif. Si vraiment vous trouvez que c'est important, vous pouvez
adhérer.
Et puis, il y a d'autres activités. Il y a le cercle de silence aussi, donc le dernier mardi du mois. Et puis, on est un petit groupe à faire aussi du théâtre, justement, pour sensibiliser les gens à la question des sans-papiers. Et à cette occasion, on vous invite, si vous ne connaissez pas, à voir notre prochain spectacle à Olympe, le 18 juin.
On a aussi à les faire venir.
Et à faire venir.
Et on a prévu une action par rapport au centre de rétention pour élargir un peu les sacs de silence le samedi au marché, le samedi 7 mai. Où on a prévu une action un petit peu, ce sera des sacs de silence de 5 minutes, avec des tas de panneaux sur le dos pour que les gens se rendent compte que les centres de rétention ça existe, qu'il y a des enfants, qu'il y a. Enfin bon. Voilà, on essaye de. Bon, enfin, on a besoin d'autres forces, hein, s'il y a des gens qui veulent venir. C'est avec grand plaisir parce que les permanences sont très lourdes, très intéressantes. On apprend énormément de choses. J'ai appris beaucoup de choses en faisant ça. Mais c'est quand même très lourd, une situation qu'on rencontre. Voilà, merci.
Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci aux.